Bonsoir à tous. Donc, lors du dernier cours, nous avions vu que la fixation d'un canon biblique, c'est-à-dire d'une collection de livres reçus comme inspirés, constituait un besoin pour les différentes églises locales, en même temps qu'une nécessité pour combattre les sectes hérétiques qui s'opposaient à l'Église. Alors, ce soir, nous allons voir comment s'est formé dans l'Église ancienne le canon de l'Ancien Testament, et la prochaine fois, au mois de janvier, nous verrons donc la formation du canon du Nouveau Testament. Je vais rappeler d'abord que la Bible hébraïque, s'est fixée elle-même progressivement dans une histoire complexe, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, de cette histoire complexe, il émerge trois catégories d'écrits, trois ensembles d'écrits plus exactement, qu'on a appelé la loi, les prophètes et les écrits, puisque la structure de la Bible hébraïque est une structure qui contient une tripartition. Alors, d'abord la loi, qu'est-ce que c'est que la loi? C'est la Torah écrite. Le deuxième ensemble, ce sont les prophètes, les Névi'im. Et le troisième ensemble, ce sont les autres écrits, les Ketuvim. Donc, vous savez tous probablement que, beaucoup plus tardivement, cet ensemble que constitue la Bible hébraïque sera désigné sous l'acronyme de Tanakh, Torah, Névi'im, Ketuvim. Alors, les cinq livres qui constituent le Pentateuque, qu'on appelle traditionnellement les cinq livres de Moïse, sont les premiers à être acceptés comme normatifs et canoniques. Il y a plusieurs hypothèses, historiquement parlant, sur la datation de la constitution de cet ensemble que constitue la Bible hébraïque, mais bon, je ne vais pas m'étendre outre mesure là-dessus. On estime que à la fin de l'époque perse, donc vers 400 avant Jésus-Christ, le canon de la Torah elle-même est clos. Ensuite, l'ensemble des écrits prophétiques vers approximativement l'an 200 avant Jésus-Christ. Et on a une attestation d'ailleurs, au moins de cette chose, dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 15, le verset 9, il parle des combattants contre Nicanor, et il est dit « en les encourageant par la loi et les prophètes ». Donc ces deux ensembles d'écrits étaient reçus, faisaient partie de la piété, et donc étaient reçus comme canoniques. Ensuite, le troisième groupe d'écrits, qu'on appelle les Ketuvim, lui, il ne sera fixé que beaucoup plus tardivement, puisque c'est plutôt vers la fin du 1er siècle et même au 2e siècle, parce que il y a un ensemble d'écrits qui circulent et qui font problème, et donc les sages de la synagogue, les rabbins, donc vont discuter de cette question à partir du synode de Yabné en l'an 70, le synode de Yabné qui est un synode de reconstitution du judaïsme après la grande catastrophe que constitue la destruction du temple, puisque le temple c'est le centre du culte d'Israël. Donc voilà, cette reconstitution d'ailleurs, il faut le noter, se fait sous la domination exclusive des pharisiens, puisque la caste, avec la disparition du temple, la caste des sadducéens, qui est essentiellement celle des prêtres et des grands prêtres, disparaît. et puis Qumran disparaît également. Donc, cette tripartition des textes de la Bible hébraïque, eh bien, elle existe bien dans les faits. J'ai cité le deuxième livre des Maccabées, chapitre 15, verset 9, mais on pourrait aussi citer deux autres sources. Alors, par exemple, le prologue du Siracide. Vous savez, le Siracide, c'est le livre de Jésus ben Sirach, qui ne sera pas d'ailleurs intégré par le synode de Yavne dans le corpus de la Bible hébraïque, bien qu'il ait une très grande influence, si l'on en juge par le Talmud et par des écrits midrashiques, qu'il ait une très grande influence dans la tradition juive. Mais ce texte, il est connu sous la forme grecque à ce moment-là. Il a été traduit en grec aux environs des années, entre les années 140 et 132 avant Jésus-Christ. Et déjà, il nous donne une indication sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais je vais citer les premiers versets de ce prologue. Beaucoup de grandes choses nous ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis. Donc là, on a une idée très claire de la tripartition des écrits. Ceux qui ont suivi, c'est les Ketuvim. Et il faut à leur sujet louer Israël pour son instruction et sa sagesse. Mais il ne faut pas seulement acquérir la science par la lecture, il faut aussi que les amis du savoir puissent être utiles à ceux du dehors. Ceux du dehors, bien sûr, ça désigne très probablement en priorité les juifs de la diaspora, lesquels juifs de la diaspora pour l'essentiel ne maîtrisent plus la langue hébraïque, mais ça peut aussi désigner des païens prosélytes, donc qui par définition ne connaissent pas la langue des Hébreux, mais qui sont attirés par la révélation biblique. Alors, c'est pourquoi moi, alors, donc c'est le petit-fils de Jésus ben Sirach qui de ben Sirach qui écrit, pardon. Donc, c'est le petit-fils. C'est pourquoi mon grand-père Jésus, donc je vous rappelle que Yeshua, c'est un nom très, très répandu, hein, la forme hébraïque, c'est Yeshua, qui s'est adonné par-dessus tout à la lecture de la loi et des prophètes et des autres livres de nos pères et qui avait acquis une grande maîtrise, fut amené à écrire, lui aussi sur l'instruction et la sagesse, afin que ceux qui aiment le savoir, s'étant familiarisés avec ces sujets, progressent encore davantage dans la vie selon la loi. Vous êtes donc invités à en faire la lecture bienveillante et avec attention, et à montrer de l'indulgence s'il vous semble que nous, nous avons échoué, malgré tous nos efforts, à rendre certaines expressions. Car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. D'ailleurs, non seulement cet ouvrage, mais aussi la loi, les prophètes et les autres livres présentent des divergences considérables quant à leur contenu. Souvenez-vous tout à l'heure de ce verset du prologue, parce que quand on parlera de la méfiance grandissante des rabbins vis-à-vis de la Septante, vous voyez que c'est pas strictement lié à la controverse avec l'Église primitive, c'est quelque chose qui remonte loin, puisque là, le Siracide dit très clairement que la traduction grecque est inférieure à l'original hébreu. Mais cet original hébreu a longtemps, très longtemps été perdu, et on a trouvé une version hébreu du Siracide à Qumran qui peut-être a été à la base de la traduction faite en Égypte par le petit-fils de Ben Sirach. Alors, cette tripartition de la Bible hébraïque, elle est bien attestée, on l'a vu, au moins partiellement dans le livre des Maccabées pour ce qui concerne la loi et les prophètes, un deuxième livre des Maccabées, par le Siracide, là c'est très clair, hein, les trois catégories d'écrits sont nommées, mais aussi, donc, dans la tradition chrétienne, par le Seigneur lui-même, par les apôtres et par les évangélistes. J'y reviendrai. Selon, voyons de quoi, alors, rentrons dans le détail, hein, on a vu que cette Bible hébraïque est composée de trois sortes d'écrits, et allons un peu plus loin. Selon Flavius Josèphe, vous savez que Flavius Josèphe nous est précieux par nombre de ses livres, et notamment le livre qui s'appelle « La guerre des Juifs » et le livre des Antiquités juives qui nous occupe maintenant. Donc, Flavius Josèphe décrit assez précisément le canon de cette Bible hébraïque. Donc, c'est très, très important. Ce canon comportait 22 livres ou 24 selon qu'on regroupe deux des auteurs avec deux autres auteurs. Je vais y revenir. Alors, il y a d'abord les livres de Moïse, les livres prophétiques et les autres écrits. Et Flavius parle de 22 livres parce qu'il rassemble Juges et Ruth ensemble et Jérémie et Lamentation ensemble. Donc, selon les sources, il y a 22 livres ou 24 livres. Le corpus biblique se compose donc comme tel. La Torah, donc la Genèse, les cinq premiers livres, hein, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ça fait donc cinq livres. Je rappelle que dans la tradition hébraïque, ces livres sont désignés par les premiers mots qui les commencent. Ensuite, le deuxième groupe d'écrits, ce sont les écrits prophétiques, qui sont distingués donc chez Flavius. Les premiers prophètes, les Névi'im, Rishonim, Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, les deux livres de Samuel donc, les deux livres des rois, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ça fait donc sept livres. Dans ce corpus prophétique, il y a les derniers prophètes, les Névi'im, Aaronim, qui regroupent Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Adjée, Zacharie, Malachie. Bon. Mais là, ils sont regroupés en un livre. Dans le troisième groupe de livres, qu'on appelle les écrits, les Ketuvim, il y a les psaumes, les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Coëlette, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques, ça fait 11 livres, donc un total de 24 livres. Ou 22 livres selon Flavius Josèphe, si on met Juges et Ruth comme il le fait ensemble, et Jérémie et Lamentation ensemble. Gardons plutôt le compute de 24 livres. Mais si l'on compte différemment chacun, en comptant chacun des 12 petits prophètes, on aboutit évidemment à 39 livres. C'est cette manière habituelle de compter les livres de la Bible hébraïque qui constitue l'Ancien Testament, une partie de l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. Il faut noter, et c'est important, que ces 39 livres sont reçus par tous, par les juifs comme par les chrétiens. Donc, la constitution du canon de l'Ancien Testament chrétien correspond également à la période de finalisation de la constitution du canon hébraïque. le canon de l'Ancien Testament chrétien sera vraiment constitué un peu plus tard, au IVe siècle. Mais donc ces deux mouvements sont parallèles, et il y a quelque chose à considérer, c'est que ça va se faire aussi avec de la polémique entre la synagogue et l'Église primitive. Mais il faut noter tout de suite une chose très importante, c'est que l'Ancien Testament chrétien, c'est la Bible des Septante. Dès son origine, l'Église chrétienne a utilisé la Bible des Septante, qu'elle a reconnue comme livre inspiré, à la suite de Philon d'Alexandrie, d'ailleurs, qui reconnaissait la Bible des Septante comme inspirée, et comme le feront bon nombre, la quasi-totalité des auteurs chrétiens. Cette Bible des Septante, elle est souvent citée d'ailleurs dans les manuscrits de Qumran, et de ce point de vue-là, les manuscrits de Qumran sont du plus haut intérêt, parce que non seulement ils citent la Bible des Septante, mais ils citent aussi un texte hébreu pré-massorétique. Donc pour faire l'histoire du texte biblique, aussi bien le texte grec des Septante que le texte pré-massorétique qui servira aux massorètes pour établir ce qu'on appelle le texte massorétique, ces manuscrits de Qumran sont très importants. Alors, cette Bible des Septante, elle obéit, contrairement à la Bible hébraïque qui a une structure tripartite, la Bible des Septante a une structure quadripartite, à savoir le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et sapientiaux, et les livres prophétiques. Vous trouverez souvent dans des éditions de Bible française un tableau comparatif de la structure de la Bible hébraïque et de la Bible des Septante. Je rappelle que, bon, évidemment, comme nous allons le voir, la Bible des Septante est aussi l'œuvre de traducteurs juifs qui ont entrepris cette traduction en grec pour la très importante communauté juive d'Alexandrie, Alexandrie qui était de la plus haute antiquité un centre intellectuel de première importance dans l'Antiquité. Alors, cette traduction, elle commence, je vais passer rapidement là-dessus, mais non sans citer le livre de la vie de Moïse de Philon d'Alexandrie, parce que c'est une source tout à fait précieuse. Donc cette traduction commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, puisque les Juifs d'Alexandrie ne parlent plus l'hébreu et qu'ils ont besoin de comprendre la révélation dans la langue qu'ils parlent, c'est-à-dire le grec. Dans la vie de Moïse, de la page 103 à la page 111, Philon d'Alexandrie raconte l'origine de cette traduction et le pourquoi de cette traduction. Alors, je ne vais pas citer bien sûr toutes ces pages, je vais citer que deux extraits. Le premier, le voici. Que la sainteté de notre législation ait été une source d'émerveillement, non seulement chez les Juifs, mais aussi chez tous les autres peuples, voilà qui ressort à l'évidence de ce qui a été déjà dit et de ce qui va l'être. Anciennement, les lois furent écrites en langue chaldéenne. Alors, dans l'œuvre de Philon, chaldéen et hébreu, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que quand il parle de langue chaldéenne, il parle de la langue hébraïque, en fait. Et pendant longtemps, restèrent dans la même forme sans passer dans une autre langue, tant qu'elles n'avaient pas encore révélé leur beauté aux autres hommes. Mais lorsque, par le soin et l'effort quotidien et constant de ceux qui les pratiquaient, elles furent remarquées aussi par les autres hommes, et que leur gloire se fût répandue de tous côtés, car les choses excellentes peuvent bien, pour un temps limité, être tenues dans l'ombre par l'envie, mais la bienveillance de la nature leur redonne leur éclat en temps opportun. Le terme de nature, ça renvoie à la providence divine. Philon emploie nature pour providence divine. Alors certains jugèrent scandaleux que ces lois puissent être étudiées seulement dans une moitié du genre humain, les barbares, et que la patrie grecque, dans sa totalité, en fut exclue. Ils s'occupèrent de les faire traduire. Bon, je passe sur le récit détaillé qu'il fait donc de cette entreprise de traduction, à savoir le roi, le troisième roi souverain d'Égypte après la conquête de l'Égypte par Alexandre, donc Ptolémée Philadelphe, envoie auprès du grand prêtre Élazar une délégation et lui demande d'envoyer des traducteurs pour traduire en langue grecque la loi, la Torah. Donc là-dessus, Éléazar établit la liste des Hébreux les plus réputés de son entourage. Il les envoie donc au roi Ptolémée Philadelphe. Les traducteurs s'établissent dans l'île de Pharos. La lettre d'Aristée nous dit qu'il y a 72 savants, donc 6 par tribu. Ils s'établissent dans l'île de Pharos et ils entreprennent la traduction des livres saints. Alors, Philon nous dit que s'étant donc établi dans cette retraite et sans aucune présence autre que celle des éléments naturels, terre, eau, air, ciel, sur la genèse desquels il s'apprêtait à faire les hiérophantes, car la loi commence par la création du monde, ils prophétisèrent comme si Dieu avait pris possession de leur esprit, non pas chacun avec des mots différents, mais tous avec les mêmes mots et les mêmes tournures, chacun comme sous la dictée d'un invisible souffleur. Bon, bref, ils vont tous traduire le texte, les textes hébreux à leur disposition. Ils vont les traduire en langue grecque. Et ces traductions seront la traduction des différents sages, une seule traduction en vérité, sera véritablement regardée comme inspirée. Et Philon ajoute, toutes les fois que des Chaldéens, c'est-à-dire des Hébreux, sachant le grec, ou des Grecs sachant le Chaldéen, l'Hébreu, se trouve devant les deux versions simultanément, la chaldéenne et sa traduction. Il les regarde avec admiration et respect comme deux sœurs, ou mieux, comme une seule et même œuvre, tant pour le fond que pour la forme, et ils appellent leurs auteurs non pas des traducteurs, mais des hiérophantes et des prophètes, eux à qui il a été accordé, grâce à la pureté de leur intelligence, d'aller du même pas que l'esprit le plus pur de tous, celui de Moïse. Alors vous pourrez lire ça dans l'édition de Claude Mondésert, donc dans des œuvres de Philon d'Alexandrie, c'est le numéro 22, La vie de Moïse, entre les pages 203 et 211. Il est inutile de rappeler également que cette traduction de la Torah à Alexandrie s'inscrit dans une entreprise plus vaste de traduction de la littérature juive dans les trois derniers siècles avant notre ère. Et ce n'est que assez progressivement, finalement, que dans les premiers siècles de notre ère, le judaïsme refusera peu à peu l'usage du grec pour les textes sacrés, J'en veux pour preuve le fait que le rabbinat était conscient que les juifs de la diaspora avaient besoin de textes grecs pour comprendre l'écriture et qu'il fit faire des révisions de la Septante. Il fit faire des traductions plutôt que des révisions d'ailleurs, en s'appuyant beaucoup plus sur leurs textes hébreux, et en particulier donc Aquila, Symmac et Théodotion, celle d'Aquila d'ailleurs étant vraiment une traduction très littérale en grec. Alors, ce texte des Septante avait été bien accueilli dans un premier temps dans le judaïsme, hein. Rabban Shimeon ben Gamaliel, au 1er siècle par exemple, dit, et on trouve ça dans le Talmud, le traité Megillah, « La seule langue étrangère permise pour la transcription du rouleau de la loi est le grec. » Mais néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en citant Siracide, il y a déjà une considération sur le fait que la traduction n'est pas égale à son modèle. Hein. Il le dit, le Siracide, hein. « Car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. » Alors que, selon Philon d'Alexandrie, la Bible en hébreu et la Bible en grec sont deux sœurs. Elles sont d'égale dignité, elles sont toutes deux un ensemble de textes inspirés. Et je vous renvoie là-dessus à ce que dit très excellemment l'archimandrite Placide de Sailles dans son introduction à sa traduction des psaumes en français à partir du psautier de la Septante. Donc il y a quand même une méfiance grandissante. Il n'y a pas un refus encore systématique de la Bible en grec, mais il y a une méfiance grandissante et on veut prendre ses distances avec la Septante au moyen de ces révisions que j'ai citées, qui d'ailleurs ne seront utilisées que très très exceptionnellement en milieu chrétien. Et bien sûr, cette méfiance grandissante va aboutir au rejet. Ça n'est pas étranger, bien sûr, avec la polémique entre la synagogue et l'Église ancienne. Il y aura un rejet de cette Bible des Septante. Dans un livre de la littérature midrashique, le Maseret Soferim, on trouve cette affirmation qui montre bien que ça finira par un rejet. Il est dit « La traduction d'Alexandrie est un événement néfaste comparable au jour où Israël fabriqua le veau d'or. » Donc vous voyez, les choses à ce moment-là étaient consommées. Mais il y a aussi une raison intérieure au judaïsme rabbinique, donc judaïsme issu de la destruction du temple, c'est que les sages de Yabné et leurs successeurs vont affiner, bien sûr, développer et affiner les règles herméneutiques qui sous-tendent leur exégèse, et leur exégèse s'appuie sur le texte hébreu. Elle est complètement liée à des règles qui sont applicables uniquement au texte hébreu, cela va sans dire. Alors, continuons en disant que la Bible des Septante, qui pour nous, chrétiens, est notre Ancien Testament, non seulement a une structure différente de la Bible de la synagogue, non seulement a un nombre de livres différent de celui de la Bible de la synagogue, mais j'ai dit que cette Bible est dès l'origine la Bible de l'Église primitive, elle est la Bible aussi des pères grecs, et elle a été considérée dans l'Église primitive comme une préparation évangélique. le reflet d'un judaïsme universaliste qui est une préparation évangélique. Et donc, en quelque sorte, c'est une porte d'entrée, on l'a considéré comme telle, comme une porte d'entrée au Nouveau Testament. Et de ce fait, elle forme avec celui-ci le texte de référence pour la plupart des mots qui expriment la foi chrétienne. Le père Placide en a parlé, le chanoine Rose, qui était un spécialiste de la Bible des Septante en milieu catholique romain, l'a excellemment démontré également. Tout ce que le vocabulaire de la foi chrétienne doit à la Bible des Septante. Et ceci est présent également dans les œuvres patristiques grecques, de sorte qu'il y a entre la Bible des Septante, qui est notre Ancien Testament, le Nouveau Testament et les œuvres patristiques, une continuité tout à fait remarquable. Continuité qui sera mise à mal avec Saint Jérôme au Ve siècle, qui lui traduira directement à partir du texte hébreu, qui n'est pas le texte de la Massora d'ailleurs, qui est encore un texte hébreu qui a des variantes par rapport au texte massorétique, donc normalisé, et qui traduira directement à partir de ce texte en latin, et l'Église d'Occident adoptera cette traduction de l'Ancien Testament issu de l'œuvre du prêtre Jérôme, à l'exception toutefois notablement du psautier qui restera très très longtemps celui des Septante pour l'usage liturgique. Celui des Septante traduit en latin, bien sûr. Alors, ce qu'on peut dire encore, c'est que, après avoir dit que le texte des Septante constitue un texte majeur où va se former la langue de la piété chrétienne, ça c'est vraiment incontestable, il faut dire également que la Septante, eh bien, est témoin d'un certain nombre de manuscrits hébreux plus anciens qui ont été découverts notamment à Qumran. Et cette Septante est le témoin de textes hébreux qui contiennent des différences, parfois très minimes, mais parfois plus accentuées, avec le texte hébreu massorétique. Ça veut dire que, très probablement, le texte hébreu qui a servi au traducteur à Alexandrie n'est pas le texte pré-hébreu, pré-massorétique. Vous savez qu'il circulait bon nombre de textes hébreux, et ce n'est pas le texte hébreu pré-massorétique qui a servi de base à cette traduction. Voilà, bon, vous pouvez vous reporter sur ces questions qui sont très intéressantes, mais ça ne fait pas l'objet d'un long développement de ma part, parce que ce n'est pas mon sujet, mais historiquement, c'est très intéressant. Si ça vous intéresse de rechercher dans cette direction, vous avez les travaux d'Olivier Munch, vous avez les travaux de Marguerite Arles, qui se reportent à toutes ces questions, et bien d'autres auteurs, bien sûr, qui se reportent à toutes ces questions. Parce que la Septante a été redécouverte assez largement en milieu occidental au XIXe siècle, l'intérêt pour la Septante a ressurgi au XIXe siècle, et bon nombre de savants se sont penchés sur son texte, ses relations avec les textes hébreux qui étaient connus à l'époque, et à plus forte raison après 48 avec la découverte de Qumran qui nous apporte des renseignements de première main sur la relation entre le texte de la Septante et des textes, des manuscrits hébreux qui diffèrent eux-mêmes du texte pré-massorétique, et à plus forte raison du texte massorétique. Alors, dans l'Antiquité chrétienne, on a eu différentes éditions du texte de la Septante. Il y a d'abord cette œuvre monumentale, comme nous dit Gribeaumont, dans un article sur les exaples. Cette œuvre monumentale d'Origène d'Alexandrie, qui a entrepris à Césarée de Palestine un travail qui a consisté à disposer en 6 colonnes, d'où le nom d'exaple, le texte hébreu, sa transcription phonétique en lettres grecques, ce qui est doublement intéressant parce que ça représente une tentative de fixer la vocalisation de la Bible hébraïque. Cette vocalisation de la Bible hébraïque, à l'époque où Origène l'entreprend, n'était pas encore achevée par les massorètes. Hein, bien s'en persuader. Donc, l'entreprise d'Origène, à ce titre-là, offre un grand intérêt. Donc le texte hébreu, sa transcription phonétique en lettres grecques, la traduction d'Aquila, ça c'est les 3 révisions, hein, la révision d'Aquila, la Symmaque, le texte de la Septante et celle de Théodotion. Donc voilà, c'est un travail du plus haut intérêt dont beaucoup malheureusement a été perdu. Il y a quelques fragments qui ont été conservés, mais beaucoup ont été perdus. Et c'est véritablement regrettable, car cette entreprise a été quelque chose de tout à fait magnifique. Et si nous la possédions intégralement, eh bien, ce serait fort heureux. Il y a eu une autre au 4e siècle, fin 3e, début 4e, donc un autre travail qui a été une édition basée sur la 5e colonne des exaples, donc la colonne de la Septante proprement dite. On l'attribue souvent à Eusèbe de Césarée, et ou à son maître Pamphile, on ne sait pas très bien. Et une autre édition remarquable également, celle de Lucien d'Antioche, prêtre à Antioche, qui est mort vers 311-312. Et ce texte est intéressant parce que des manuscrits, les manuscrits de ce texte transmettent le type qui est attesté chez les pères antiochiens, en particulier chez Jean Chrysostome, chez Théodoret et d'autres. Un texte qui, il faut le dire, se caractérise par une certaine pureté grammaticale. Et il est probable que ce texte antiochien, selon les spécialistes, conserve une forme assez ancienne de la Septante, car ses particularités peuvent déjà être attestées chez Flavius Joseph ou dans la Vetus Latina. Vous savez que la Vetus Latina, c'est la première traduction latine à partir du texte de la Septante. Donc c'est pas la Vulgate de Saint Jérôme traduite à partir du texte hébreu. Autre traduction que nous connaissons, qui est dans le domaine égyptien, c'est un évêque égyptien qui s'appelait Hésicus, et qui a donné une édition de la Septante et du Nouveau Testament. Alors autant dire une chose, c'est que à partir de ce trésor qui est d'origine juive, la Septante c'est d'origine juive, les grands centres chrétiens de l'Antiquité vont faire des éditions qui vont se répandre assez rapidement. Bien sûr, ça ne se répand pas à l'époque comme aujourd'hui, puisque réaliser un livre coûte fort cher, et donc le nombre est limité, mais ils vont se répandre. ils vont se répandre à tel point que l'empereur Constantin, qui est mort en 357, demandera à Eusèbe de Césarée, qui lui est mort en 339, si je me souviens bien, il lui demandera 50 Bibles pour donner aux églises de sa nouvelle capitale. Et l'empereur Constant, mort en 350, demande... J'ai dit Constantin, c'est 337 sa mort. J'ai peut-être fait une erreur. 337 Constantin, 339 Eusèbe, et 350 Constant. Et l'empereur Constant, il demandera la même chose à Saint Athanase d'Alexandrie. Alors, il faut dire également que cette Septante, donc cette traduction, ou plutôt, si on reprend la terminologie de Philon et des pères grecs, ce livre inspiré de la Septante, parce que c'est pas seulement une traduction, au fond, ce livre inspiré de la Septante, il a servi à la plupart des auteurs du Nouveau Testament et aux pères de l'Église. Et puis, il a servi aussi à des traductions dans d'autres domaines linguistiques, chez les Coptes, chez les Latins, chez d'autres encore, chez les Syriaques, etc. Donc, la Septante a joué un rôle déterminant dès les origines de l'Église, et c'est aussi pour cette raison qu'elle est reçue comme un texte inspiré et pas seulement comme une traduction comme nous recevrions aujourd'hui nos traductions en langue française. Alors, cet héritage de la Bible grecque d'Alexandrie diffère sensiblement de la Bible hébraïque. D'abord par son organisation. Son organisation, elle est quadripartite et non plus tripartite. Comment se compose le canon chrétien de l'Ancien Testament? D'abord, les livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'est semblable à la Bible hébraïque. Ensuite, les livres historiques. Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 règnes. Alors 1 et 2 règnes, ça correspond dans la Bible juive à 1 et 2 Samuel. 3 et 4 règnes, donc il y a 4 livres des règnes qui regroupent les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois de la Bible hébraïque. 2 livres des paralipomènes correspondent aux 2 livres des chroniques. Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, avec supplément grec, les 4 Maccabées, les livres d'Esdras, il y en a 4, les livres poétiques, alors ça c'est les livres historiques, ensuite les livres poétiques et sapientiaux, les psaumes, donc les 150 psaumes de David, plus le psaume 151, qui n'est jamais lu à l'Église d'ailleurs, la prière de Manassé, les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Coëlète, Sagesse, Siracide, les Odes. Ensuite, les livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, avec le supplément grec, le Daniel grec, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Adjé, Zacharie, Malachie. Et vont s'adjoindre à cela, je ne sais pas si j'ai nommé le Siracide, Siracide, Sagesse, Tobie et la lettre de Jérémie, le supplément grec, lettre Jérémie. Bon. Pourquoi l'une des raisons pour lesquelles cette Bible des Septante est devenue l'Ancien Testament de l'Église, c'est qu'elle contient de nombreux passages dans la loi, dans les prophètes, dans les écrits, mais aussi dans d'autres livres qui figurent dans son corpus et qu'on ne trouve pas dans la Bible hébraïque, que les Grecs appellent donc Anagignoskomena. Donc ce sont des livres qui ont la particularité d'être autorisés à la lecture, et en particulier qui sont bons à lire pour ceux qui se préparent à recevoir l'illumination. Ce sont des livres qui ont une influence, en particulier par exemple le Siracide, qui ont une influence dans les offices, dans la prière de l'Église. Et donc de nombreux passages de cette Septante, et en particulier dans les psaumes, annoncent le Christ et les réalités chrétiennes. C'est ainsi qu'ils ont été lus dès les origines de l'Église. Et par exemple, vous savez, dans la controverse avec Tryphon, dans le dialogue avec Tryphon, le rabbin Tryphon, donc un texte très important de Justin, philosophe et martyr, texte apologétique, eh bien, Justin énumère un grand nombre de ces passages tirés de la loi, des prophètes, des écrits, lesquels écrits ont une acception plus large dans la Septante que dans la Bible hébraïque. Hein. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, sans être forcément trop réducteur, mais on peut se poser la question de savoir si les rabbins de Yabné n'ont pas voulu éliminer une version grecque que l'Église chrétienne naissante avait adoptée. La question, à mon avis, reste ouverte, et en tout cas, elle ne manque pas de pertinence. Bon, je vais passer sur... je ne vais pas revenir sur l'élimination progressive dans le judaïsme de l'usage de la langue grecque. J'en ai dit quelques mots et je pense que c'est suffisant pour le moment. De l'élimination, dans un premier temps virtuelle, de la Septante au moyen des révisions de Théotokion, de Symmaque et d'Aquila, puis de son élimination pure et simple. Bon, je pourrais simplement rappeler une autre référence qui montre qu'à un moment donné, le divorce a été consommé entre le judaïsme et la Septante. Dans le Sefer Torah, il est dit: les Écritures ne doivent pas être écrites en langue grecque. 70 anciens écrivirent la Torah pour le roi Ptolémée en grec, et ce jour fut aussi mauvais pour Israël. Et je l'ai dit tout à l'heure, que le jour où le veau d'or fut fabriqué, puisque la Torah ne pouvait pas être traduite adéquatement. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la Torah, finalement, ne peut pas être traduite adéquatement. Une autre référence, même affirmation que le Sefer Torah, mais qui dit que ce ne sont pas 70 anciens qui ont traduit, mais 5. Et une dernière référence qui dit que le 8 du mois de Tébet, la loi fut traduite en grec sous le roi Ptolémée. En châtiment, les ténèbres couvrirent le monde pendant 30 jours. Alors, les pères de l'Église, eux, au temps des pères de l'Église, l'Église posa le problème du canon et a été contrainte à un grand effort d'éclaircissement et de fixation des livres sacrés, de ce qui constitue son écriture vétérotestamentaire. Remarquons que les pères apostoliques citent l'Ancien Testament selon la version des Septante. Le Père apostolique, c'est la génération qui suit immédiatement les apôtres, qui ont été en contact avec les apôtres et qui les suivent dans la succession des générations. On remarque que ces pères apostoliques sont familiers, pour un certain nombre d'entre eux, des textes qui ne figurent pas dans le canon hébraïque, mais qui figurent dans le canon des Septante, ce qu'on appelle en grec les anagignoskomena. En Occident, on parle de deutéro canoniques. Bon, pour la facilité de compréhension, on peut parler de deutéro canoniques, mais c'est pas dans le vocabulaire orthodoxe deutéro canonique. Mais c'est d'usage courant dans les Bibles en langue française, du moins celles qui ont un canon plus large que le canon de la Bible hébraïque. Alors, il y a une familiarité avec ces anagignoskomena, mais il y a aussi des textes apocryphes qui sont cités, ce qui montre que, au temps des pères apostoliques, le canon n'est pas encore définitivement fixé. Origène, donc deuxième, troisième, lui, il sait que quelques livres qui sont utilisés dans l'Église, donc qui sont utilisés comme écriture, écriture sainte dans l'Église, n'appartiennent pas au canon hébraïque. Donc ça va l'amener à lui-même et d'autres pères à distinguer deux catégories d'écrits. Celui du canon hébraïque, donc les 24 ou 39, selon le compute qu'on adopte, les 24 ou 39 livres du canon hébraïque qui sont reçus par tous, juifs et chrétiens. Donc premier groupe de livres. Et les anagignoskomena, ou deutérocanoniques, et celui des apocryphes. Et la position va évoluer, c'est-à-dire que on va distinguer progressivement anagignoskomena et apocryphes, et les apocryphes vont être purement et simplement rejetés. On va voir comment. Alors, au point où on en est rendu, qu'est-ce qu'on peut dire des critères qui sont appliqués par l'Église pour l'établissement du canon de l'Ancien Testament? Le premier des critères, c'est l'usage public, donc dans la prière officielle de l'Église, et ce critère a guidé l'Église dans le discernement des livres du canon vétérotestamentaire, puisque je rappelle que la liste varie. Bien sûr, l'usage dans le culte, l'usage cultuel, il est fondamental à considérer, parce que un livre qui fait l'objet de l'usage cultuel bénéficie d'une reconnaissance de son caractère sacré. Bien sûr, on ne va pas lire dans le culte public de l'Église un livre dont on ne reconnaît pas le caractère sacré, ça va sans dire. Et c'est attesté d'ailleurs, et ça c'est valable pour l'Église chrétienne comme pour la synagogue, c'est dans le même héritage, si j'ose dire. Il y a une attestation de cela chez Justin, philosophe et martyr. Il dit, en parlant du culte chrétien, il est un des tout premiers à parler du culte chrétien et de son déroulement, de l'assemblée des fidèles le jour du Seigneur. Eh bien, il parle en disant: nous lisons la prophétie et les mémoires des apôtres. Qu'est-ce que c'est que les mémoires des apôtres? Ce sont les évangiles. On verra que les évangiles, l'évangile tétramorphe dont parle plus tard saint Irénée de Lyon, eh bien, a été reçu unanimement. Et cet évangile, d'ailleurs, lui-même, procède primitivement de la tradition orale. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a été mis par écrit. Et son fondement, c'est le kérigme, l'annonce du kérigme par les apôtres et disciples du Seigneur. Donc voilà, on lit la mémoire des apôtres, on lit les mémoires des apôtres, c'est-à-dire les évangiles, et mais la question de la canonicité de ce qu'on appelle les anagignoscomena, donc des livres supplémentaires aux 39 livres reçus par tous, hein, est longtemps restée débattue dans la période patristique. Le troisième critère, hein, donc j'ai parlé donc des critères retenus par l'Église, je parle plus directement des critères retenus par l'Église et dans son discernement pour l'établissement du canon de l'Ancien Testament. Le troisième critère, c'est l'usage de ces écrits qui est fait dans le Nouveau Testament. Alors bien sûr, tous les écrits de l'Ancien Testament ne sont pas cités dans le Nouveau Testament, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils ne sont pas cités qu'ils n'ont pas été pris en compte dans la rédaction du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que tous ces écrits de l'Ancien Testament sont bien présents par de nombreuses citations dans le Nouveau Testament, et ça se justifie par le fait que, en particulier, la prophétie est lue en fonction de la personne du Christ, et qu'il ne pouvait en être autrement. Je rappelle que l'herméneutique chrétienne n'est pas une invention de quelque savant docteur que ce soit, mais est une obéissance à un commandement du Seigneur. Le Seigneur dit à plusieurs reprises, et en particulier aux pèlerins d'Emmaüs, sondez les Écritures, elles me rendent témoignage. Et en commençant par la loi, en commençant par Moïse, la loi et les prophètes, il les instruit, etc. Reportez-vous au récit des pèlerins d'Emmaüs. Donc, nous lisons en régime chrétien, nous lisons l'Ancien Testament, qui n'est ancien que par rapport au Nouveau, bien sûr, nous lisons l'Ancien Testament en fonction de la personne du Christ. Car le Christ est présent de manière voilée dans le Premier Testament et de manière dévoilée dans le Nouveau Testament. Il faut remarquer que à ce propos-là, il y a à peu près, bon, je peux me tromper, hein, mais il y a environ 350 citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, selon la version des Septante, très majoritairement, plus de 310 fois, selon la version des Septante. Alors, ce sont des citations qui sont soit littérales, soit assez libres, mais qui ne tordent pas pour autant le texte, hein, parce que je rappelle que les apôtres et évangélistes étaient tellement imprégnés de la Bible, comme les pères qui suivront d'ailleurs, qu'ils citaient la parole soit littéralement, soit assez librement, mais toujours en en respectant le sens, parce qu'ils étaient pénétrés, très profondément pénétrés du caractère sacré de ces textes, de l'inspiration de ces textes. Et bon, j'ai rappelé à trois reprises au moins que Philon nous avait déjà dit que la Septante était divinement inspiré, ce qui éclaire d'ailleurs l'affirmation de saint Paul en 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est divinement inspirée et utile ». Je ne poursuis pas la citation. L'écriture dont il s'agit, c'est l'écriture sainte, bien sûr. Et cette inspiration divine de l'écriture sainte exprime la foi qui, là, est commune aux juifs et aux chrétiens. Saint Irénée, d'ailleurs, le dit dans son « Contre les hérésies » au livre 3, 21-1-3. Je vais citer parce que c'est important. « Or, elle est solide et sans feinte, et seule vraie cette foi qui est la nôtre. Car elle a sa preuve dans les Écritures traduites de la manière dont nous avons parlé, et la prédication de l'Église est sans altération. » Et un peu plus loin, il dit « Les apôtres, en effet, qui sont plus anciens que tous ces faux docteurs. » Je rappelle que le Contre les hérésies a été écrit pour combattre les sectes gnostiques qui pullulaient alors et qui représentaient un danger mortel pour l'Église de ce temps. Les apôtres, en effet, sont plus anciens que tous ces faux docteurs. Non, les apôtres, en effet, qui sont plus anciens que tous ces faux docteurs, pardonnez-moi, sont en accord avec la version susdite. Et cette version est d'accord avec la tradition des apôtres. En effet, Pierre, Jean, Matthieu, Paul, de même que tous les autres apôtres ainsi que leurs disciples, tous ont prêché toutes les paroles des prophètes sous la forme même de la version des anciens. Et la version des anciens dont parle Saint-Irénée, c'est la Septante. Et Eusèbe de Césarée ne dit pas autre chose au livre 8 de la préparation évangélique quand il cite un extrait de la lettre du grand prêtre Éléazar au roi Ptolémée d'Égypte. « Maintenant que la traduction a été faite correctement, avec piété et exactitude rigoureuse, il est bon que cette œuvre reste comme elle est, sans la moindre retouche. » À ces mots, ce fut une acclamation générale, alors ils, les prêtres et les anciens du groupe de traducteurs et les délégués de la communauté, invitèrent les assistants à prononcer une malédiction, selon l'usage, contre quiconque retoucherait l'ensemble du texte, soit en l'allongeant, soit en l'altérant, si peu que ce fût, soit en y retranchant. Excellente mesure pour le garder à jamais immuable. Donc, ce texte inspiré et reçu par les pères, à la suite de Philon et des Juifs d'Alexandrie, je l'ai dit, constitue une unité organique avec le Nouveau Testament. Et l'ensemble constitue la Bible chrétienne. Alors, il y a eu de nombreuses hérésies, et c'est l'une des nécessités qui a poussé l'Église à fixer le canon, c'est-à-dire le corpus des livres reçus comme inspirés. Il y a eu des nombreuses hérésies qui ont surgi dans l'Église, et en particulier une retiendra notre attention, celle de Marcion, qui est un hérétique du IIe siècle, qui est originaire de Sinope dans le Pont, qui fut excommunié par son père qui était évêque, qui appartient un temps à l'Église de Rome, et qui en sera chassé. Et donc, ce Marcion finira par tomber dans l'hérésie gnostique, et finira, comme tous les gnostiques, à distinguer le Dieu de l'Ancien Testament du Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament étant un dieu, un démiurge mauvais, disent-ils. Et bien sûr, sa doctrine sapera complètement les bases de la foi chrétienne, non seulement en niant le dépôt reçu par l'Église de toute l'écriture antérieure, en niant la continuité des deux Écritures, en niant le fait que le Christ était accomplissement de la promesse faite à Israël, et en disant même sans honte que le Christ a assumé un corps d'apparence, donc en professant le docétisme, et par là même, en niant de ce fait la résurrection de la chair qui est quelque chose de mauvais, qui appartient au monde d'en bas, et qui est promise à la perdition, selon Marcion et toutes les sectes gnostiques. Mais ce qui est intéressant à considérer, ça vous pouvez vous reporter au contre les hérésies de Saint-Irénée, qui développe de manière systématique l'exposition des thèses des différentes écoles gnostiques et leur réfutation. Ce qui est intéressant à considérer chez Marcion, c'est qu'on voit l'apparition d'un premier canon des Écritures de l'Ancien Testament, canon qui est expurgé de tout l'Ancien Testament, non, les Écritures bibliques en général. Donc Marcion expulse complètement les textes de l'Ancien Testament, ne retient que des fragments du Nouveau Testament, des quelques épîtres de Saint Paul, des fragments de l'Évangile de Luc, et donc il constitue ce canon pour justifier ces hérésies. Donc, en soi, l'hérésie marcionite, elle est très très commune aux autres sectes gnostiques, mais elle a cette particularité de s'appuyer sur un canon complètement expurgé, ça va sans dire, puisque les gnostiques qui prétendaient au nom de chrétiens se servaient frauduleusement des Écritures saintes pour justifier leurs hérésies, et Marcion établit son canon des Écritures dans cette perspective, bien sûr. Ça va pousser, ça va être un élément décisif pour l'Église dans le but de fixer le canon de ces Écritures. Quels sont les livres qui sont reçus comme canoniques et quels sont les livres qui n'y entrent pas pour l'Ancien Testament en fonction des critères que je viens d'exposer, et nous verrons pour le Nouveau Testament la prochaine fois en fonction d'autres critères. Alors, je rappelle que du point de vue de l'herméneutique chrétienne, l'Ancien Testament se comprend dans le Nouveau et le Nouveau dans l'Ancien. C'est-à-dire que beaucoup de situations dans lesquelles s'est trouvé le Christ dans son enseignement font référence explicitement ou implicitement à des choses qui sont connues de ses auditeurs, qui eux-mêmes connaissaient l'Écriture. Et le Christ lui-même nous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, la règle herméneutique fondamentale, c'est « sonder les Écritures, elles me rendent témoignage ». Autrement dit, il y a ce qu'on appelle, dans un texte scripturaire, il y a une typologie. Le texte, tout le texte scripturaire contient une typologie. Il donne des tupos qui préfigurent la vie, la mort et la résurrection du Christ. Alors, nous avons plusieurs sources qui nous renseignent sur l'Ancien Testament dans l'Église ancienne entre le 1er et le 4e siècle. La liste la plus ancienne dont nous disposons, c'est celle de Méliton de Sardes, qui correspond approximativement au dernier tiers du 2e siècle. Il se pourrait également, là il y a une incertitude, mais il se pourrait également que le canon de Muratori soit de la fin du 2e siècle, début 3e siècle. On le date généralement début 3e, mais il se pourrait qu'il soit de la fin du 2e. La liste d'Origène, dans le premier tiers du 3e siècle, et au 4e siècle, des listes qui nous sont données par Amphiloque évêque d'Iconium, saint Athanase d'Alexandrie, saint Cyrille de Jérusalem, Épiphane de Salamine, Grégoire le théologien. Deux listes que l'on pourrait qualifier de, je ne sais pas si le terme convient véritablement, d'officielles, puisqu'elles émanent du 59e canon du concile de Laodicée. Vous savez que il y a eu un concile à Laodicée aux alentours de 360, et il nous donne une liste des livres de l'Ancien Testament. Et le 85e canon, des canons apostoliques. Mais dans le cadre de ces deux listes, on penche plus vers le canon court, c'est-à-dire vers le canon hébraïque, vers les 39 livres. Il faudra voir les premiers codices de l'Ancien Testament, donc qui sont aux alentours de 350, pour voir le nombre, l'ordre et le nombre des livres différer partiellement entre trois catégories de manuscrits très importants, le Vaticanus, l'Alexandrinus et le Sinaiticus, qui sont les témoins de l'usage dans l'Église grecque d'une collection large de livres bibliques, qui comprend les Anagignoskomena, mais aussi d'autres livres, comme on va le voir. Donc les pères ont cité, après les pères apostoliques, les pères ont cité de manière variable des textes de la Septante qui sont au-delà du canon court des 39 livres de la Bible hébraïque. Par exemple, saint Clément de Rome va citer le Siracide, la sagesse de Salomon, Judith, la récension grecque d'Esther. Barnabé cite le Siracide, de même que le pasteur d'Hermas. Et le pasteur d'Hermas lui-même citera, bon c'est un écrit judéo-chrétien, le pasteur d'Hermas, citera lui-même le second livre des Maccabées. Saint Polycarpe de Smyrne cite le livre de Tobit. Ben, ça montre quoi? Ça montre que les pères apostoliques et leurs successeurs immédiats, qui étaient héritiers de la tradition des apôtres, ne rejetaient pas les Anagignoskomena, s'en servaient de manière fluctuante selon les auteurs, comme d'ailleurs chez les pères apologètes. Parce que Méliton de Sardes est lui aussi un apologète. Il dit avoir emprunté son catalogue aux Juifs. Eusèbe de Célarée cite la lettre de Méliton à Onésime. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le livre de Eusèbe de Césarée. Alors voilà. Je vais citer. C'est dans l'histoire ecclésiastique, au chapitre 26, Eusèbe cite Méliton de Sardes. Alors, je vous demande un petit instant. Voilà. C'est la lettre que Méliton écrit à Onésime, son frère. Méliton à Onésime, son frère, salut. Puisque tu as souvent désiré, poussé par ton zèle pour la doctrine, avoir pour toi des extraits de la loi et des prophètes au sujet du Sauveur et de toute notre foi, que tu as encore voulu connaître avec précision le nombre des anciens livres et l'ordre dans lequel ils sont placés, je me suis appliqué à faire ce travail, connaissant ton zèle au sujet de la foi et ton application à l'étude de la doctrine. C'est par amour de Dieu que tu estimes cela plus que tout le reste en combattant pour le salut éternel. Étant donc allé en Orient, et ayant été jusqu'à l'endroit où a été prêchée et accomplie l'Écriture, j'ai appris avec exactitude, les livres de l'Ancien Testament, et j'en ai établi la liste comme je te l'envoie. En voici les noms. De Moïse, 5 livres, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Jésus, Navé, c'est Josué, Juge, Ruth, 4 livres des Rois, 2 des Paralipomènes, Psaume de David, Proverbe ou Sagesse de Salomon, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Job, Prophète, Isaïe, Jérémie, les 12 en un seul livre, Daniel, Ézéchiel, Esdras. De ces ouvrages, j'en ai fait des extraits que j'ai répartis en 6 livres. Alors, Saint Justin Martyr, lui, il affirme que l'Église ne règle pas son choix en ce qui concerne la fixation du canon de l'Ancien Testament, ne règle pas son choix en fonction de l'opinion de la synagogue, mais d'après la tradition des apôtres. Et dans le livre d'un autre apologète, Athénagore, le livre de Barour est mentionné. Dans le canon de Muratori, il y a mention du livre de la sagesse. Et enfin, dans Saint-Irénée, Barour est regroupé sous le nom de Jérémie. La sagesse est nommée et le supplément grec de Daniel avec l'histoire de Suzanne et celle de Belle et du Dragon. C'est parsemé dans son œuvre qui s'appelle Le Contre les Hérésies, au livre 4 et au livre 5. Chez les grands alexandrins maintenant, Clément et Origène, les citations sont beaucoup plus nombreuses. Clément cite abondamment les Anagignoskomena, le livre des Maccabées, l'histoire de Bel et le Dragon, Judith, la recension grecque d'Esther, et il compte aussi parmi les Écritures Tobie, Sagesse, Siracide, Barour. Vous pouvez trouver ça dans les livres 1, 2 et 4 et 6 des Stromates. Origène, lui, il cite à peu près, dans son œuvre immense, tous les Anagnoskomena. Il en connaît un grand nombre, mais il en use avec prudence, tout du moins de certains, et on voit très bien qu'il a des réserves. Bon, il est en fait certain que tout ce qu'il emploie comme écriture inspirée, elle est reçue dans l'église d'Alexandrie. Parce que si le canon, dans toute l'orthodoxie, contient des variantes, c'est que en dehors des 39 livres de la Bible hébraïque qui sont tous reçus unanimement, la liste des Anagignoskomena varie et correspond à différentes traditions d'églises locales, qu'il s'agisse d'Alexandrie, qu'il s'agisse d'Antioche par exemple. Il y a des variantes dans le nombre de livres qui sont intégrés. Et donc, Origène dresse un catalogue de l'Ancien Testament, mais il semble qu'il établisse une distinction quant à l'autorité de ces textes entre les 39 livres, 22 ou 24 selon l'autre compute, et les Anagignoskomena, ou, si vous préférez, les deutéro-canoniques. Toutefois, bon, ils sont reçus, ils ont leur place, ces livres-là, parce qu'ils sont utiles, notamment pour la préparation des catéchumènes. Mais ils ont un statut intermédiaire à ses yeux, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas, selon lui, l'autorité des 39 livres du canon hébraïque, mais néanmoins ils ne sont pas confondus avec des livres qui seraient d'autorité purement humaine. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. En Occident, chez Tertullien, ben, on lit des citations d'à peu près tous les Anagignoskomena, sauf Tobie, à ma connaissance. Cyprien de Carthage emploie également ses livres. Donc, on peut dire que entre Alexandrie et l'Occident, l'Afrique romaine et puis, dans une moindre mesure, Rome, il y a une certaine proximité de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des traces des Anagignoskomena dans le Nouveau Testament, et même des emprunts à l'apocalyptique juive, à l'assomption de Moïse, par exemple, dans l'épître de Jude, ou chez les pères apostoliques, comme chez Barnabé, par exemple, des emprunts au livre d'Enoch. Bon, revenons maintenant, pour terminer, donc allons maintenant plus exactement, pour terminer au IVe siècle, puisque IVe siècle, moitié du Ve siècle, les choses vont se fixer. Bon, déjà, je vous ai cité trois grands codex. Hein, les codex, vous savez ce que c'est, hein, c'est des cahiers reliés, donc ça facilite la conservation et l'usage pour la lecture liturgique. Le Codex Vaticanus contient tous les livres de deutérocanonique, sauf 1 et 2 Maccabée. Bon, voilà. Le Codex Alexandrinus renferme tous les deutérocanoniques. Le troisième Esdras, 3 et 4 Maccabées et la prière de Manassé. Le Codex Sinaiticus contient partiellement les 24 livres, mais tous les deutérocanoniques et 1 et 4 Maccabées. Mais on remarquera que dans le Sinaiticus, il y a l'épître de Barnabé qui est placée après l'Apocalypse de Jean dans les écrits du Nouveau Testament. Et quelque part, je ne me souviens plus lequel de ces trois codex contient des citations du pasteur d'Hermas, ou tout ou partie du livre du pasteur d'Hermas. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces témoins qui sont très importants pour nous? Incontestablement, les anagignoskomena jouissent d'un grand prestige, mais également, il n'y a pas d'unanimité sur ce point. Ni dans les codices, ni chez les pères. Mais peut-on affirmer pour autant qu'ils ont obtenu la même autorité que les protocanoniques? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Dans ce siècle, quatrième du nom, Athanase d'Alexandrie, donc le grand évêque d'Alexandrie, parle du canon des Écritures. Nous en avons une attestation dans sa 39e épître festale de l'an 367. Voici ce qu'il dit. « De peur que plusieurs, trompés par une conformité de nom avec les livres authentiques, ne se laissent séduire par des livres qu'on appelle apocryphes. » Donc, Athanase témoigne là qu'il veut dresser le catalogue des Écritures véritables. Mais dans l'Ancien Testament, il en compte 24, il omet Esther et il regarde Ruth comme un livre distinct des juges. Il rattache à Jérémie Barour les Lamentations et la Lettre. Et Athanase, après avoir fait l'énumération des livres du Nouveau Testament, conclut « Voici les sources du salut, quiconque a soif peut s'abreuver de leur discours. » Là seulement est enseignée la doctrine de piété, que personne n'y ajoute ou n'y retranche rien. Mais pour plus d'exactitude, je crois devoir ajouter qu'il y a encore d'autres livres qui n'ont point été placés dans le canon, et que nos pères ont désigné pour être lus à ceux qui se convertissent et qui veulent s'instruire dans la doctrine de piété, à savoir la sagesse de Salomon, la sagesse de Jésus ben Sirach, Esther, Judith, Tobie, et pour le Nouveau Testament, il ajoute la Didaché et le pasteur d'Hermas. Et il continue, « Cependant, mes très chers, cela étant dans le canon et ceci étant lu, nulle part il n'est fait mention des apocryphes. Mais ces derniers sont une invention d'hérétiques qui écrivent des livres suivant leurs caprices en leur assignant les dates reculées pour avoir l'occasion de tromper les simples par cette feinte apparente d'antiquité. » C'est extrait donc de la 39e lettre festale de l'an 367. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Athanase, là, n'obéit pas à une règle explicite, mais que on a trois catégories de livres. Les incontestés, Ceux qui ne sont point placés dans le canon, nous dit-il, mais que nos pères ont désignés pour être lus, et puis les apocryphes. Donc, à ce moment-là, aucune décision ecclésiale n'est intervenue quant au canon, au livre devant figurer dans le canon de l'Ancien Testament. Eusèbe de Césarée, lui, établit aussi trois classes dans les livres bibliques de l'Ancien Testament. Les homologoumena, c'est ceux des livres qui sont reçus de tous, c'est les 39 dont on parle. Les antilogoumena, ce sont les livres contestés. Les notha, ce sont les livres apocryphes. Donc, il adopte la position qui consiste à accorder de la valeur au catalogue de Méliton de Sardes et d'origine. Donc, comme Athanase, il reçoit les livres du canon hébraïque, qui ont été nommés, 24 ou 39. Il ne rejette pas pour autant les anagignoskoména, qu'il range dans la catégorie des contestés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas l'unanimité, mais il les cite néanmoins. Dans l'histoire ecclésiastique, il les cite à plusieurs reprises. Et saint Cyrille de Jérusalem, lui, dans ses catéchèses, dira au IVe siècle, toujours, parlant de la nécessité pour l'Église d'établir un canon des Écritures, de fixer un canon des Écritures, il dit ceci. « Apprends soigneusement de l'Église quels sont les livres de l'Ancien, quels sont les livres du Nouveau Testament. Et ne lis rien des apocryphes, car ne connaissant pas ceux qui sont admis de tous, à quoi bon te fatiguer sur ceux dont on dispute ? Lis les divines Écritures. Ces 22 livres de l'Ancien Testament qu'ont traduit les 72 interprètes. Médite cela seulement que nous lisons dans l'Église en toute sécurité. Ceux qui nous les ont transmis, les apôtres et les anciens évêques, étaient plus sages et plus pieux que toi. Si donc tu es fils de l'Église, ne transgresse pas les lois établi, c'est dans la quatrième catéchèse. Donc, à la différence d'Athanase et Cyrille, un classement différent pour Ruth et pour Esther dans le canon. Épiphane de Salamine, lui, établit un catalogue de 22 livres que les Hébreux tiennent pour canoniques. Et lui aussi, il a un classement différent pour Ruth, qu'il rattache au juge, Samuel, au roi et les lamentations de Jérémie, à Jérémie. Donc ça le fait 27 livres pour lui. Bon, encore une variante. Voici ce qu'il dit dans son livre des hérésies, l'Épiphane de Salamine. Voilà les 27 livres donnés par Dieu aux Juifs. Il y a deux autres livres qui sont chez eux objets de controverse, la sagesse de Sirach et la sagesse de Salomon, sans compter quelques apocryphes. Et il poursuit, tu aurais dû parcourir de la création du monde au temps d'Esther les 27 livres que l'on compte ordinairement pour 22, et pareillement les 4 saints évangiles, les 14 épîtres de saint Paul, les actes des apôtres, les épîtres catholiques de Jacques, de Pierre, Jean, de Jude, l'Apocalypse de Jean et les livres de la sagesse, car celui de Salomon et de Sirach, en un mot, toutes les écritures divines. Et là, on voit évidemment que Épiphane a en honneur la sagesse de Salomon et le Siracide. On trouve également chez Saint Grégoire le théologien, un catalogue des Écritures. Chez son cousin l'évêque Amphiloque, l'évêque d'Iconium. Et là aussi, il y a des variantes. Pour finir, je dirais que les pères se sont servis de canons qui sont plus ou moins larges en ce qui concerne les anakinglosskomena, parce que ça correspond à des traditions, des églises particulières. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le concile de Laodicée contient un catalogue des écritures entièrement conforme à celui de Saint Cyrille de Jérusalem. Alors, Antioche. Eh bien, à Antioche, on considère les livres bibliques en fonction d'un degré d'autorité qui est variable. Il y a trois catégories aussi. Autorité parfaite, autorité moyenne, autorité douteuse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorité parfaite ? C'est les textes qui sont reçus unanimement de tous, de toutes les églises. L'autorité moyenne, c'est ceux des textes des anagignoskomena qui sont reçus par plusieurs, mais pas par tous. Et l'autorité douteuse, c'est ceux des anagignoskomena qui sont reçus seulement par quelques-uns. Bon, voilà, je vais en terminer là pour sauter donc de ces siècles anciens à la situation actuelle. Il n'y a pas eu dans l'Église orthodoxe un concile qui a, comme en Occident, dans l'Église latine, fixé la liste arrêtée des livres de l'Ancien Testament. Donc, les listes varient. Je rappelle que le canon de l'Ancien Testament est composé des 39 livres de la Bible hébraïque, qui sont reçus par tous unanimement, là, il n'y a aucune discussion là-dessus, et d'un ensemble de textes appelés anagignoskomena en grec, et que les latins appellent deutérocanonique. Bon. C'est en fonction, la liste varie en fonction des traditions des églises particulières. Et également, le classement est différent. Par exemple, l'Église grecque reçoit le canon de la Septante tel qu'il a été élaboré dans son entier et accorde la même autorité à l'ensemble des écrits de la Septante. Dans les Bibles russes, bulgares, serbes ou roumaines, on voit un classement qui varie. Par exemple, j'ai regardé dans l'édition de la Bible roumaine de 2008, les anagignoskomena sont classés en fin du livre de l'Ancien Testament, à la fin du livre de l'Ancien Testament. Il y a encore des variantes dans le classement en slavon. Bon, peu importe. Ce qui est important à retenir, c'est que l'Église orthodoxe, jusqu'à maintenant au moins, n'a pas éprouvé la nécessité de fixer définitivement la liste de ces anagignoskomena. Donc, elle les reçoit de manière différente. L'Église grecque les reçoit avec la même autorité que tous les autres textes, et d'autres églises les reçoivent avec une autorité différenciée par rapport aux 39 livres du canon hébraïque qui figurent dans l'Ancien Testament chrétien. Voilà, donc, pardonnez-moi pour la longueur, mais il fallait quand même un peu avancer sur cette question. Je vais mettre sur le site des références bibliographiques auxquelles vous pourrez vous reporter, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est reportez-vous à l'édition 2010 de la traduction œcuménique de la Bible, parce que cette édition a l'avantage de renfermer, pour ce qui concerne l'Ancien Testament, les textes reconnus par tous, les deutérocanoniques de l'Église latine, et l'ensemble des textes qui constituent les anagignoskomena de l'Église orthodoxe. Et en plus, il y a une très bonne introduction sur la formation du canon. Donc vous pouvez vous y reporter. Vous pouvez vous reporter également, donc un livre que j'ai cité en début de cours, donc qui est titré De Vita Moses, c'est l'édition savante hein, des œuvres de Philon d'Alexandrie, entreprises par sous la direction de Roger Arnaldès, de Claude Mondésert, de Jean Pouillou et de Pierre Savinel. Donc ça a été publié en 1967, le De Vita Moses, de la vie de Moïse. C'est sous le numéro 22. Et j'ai cité les pages, pages 203 à 211, qui sont particulièrement intéressantes pour ce qui nous occupe. Et vous avez l'histoire ecclésiastique, le livre 4, le chapitre 26 de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Je vous recommande la lecture de cette histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée qui fourmille de renseignements très très précieux sur l'Antiquité chrétienne et qui cite bon nombre de documents qui sont aujourd'hui perdus. Voilà, donc nous nous retrouverons au mois de janvier pour voir cette fois-ci la formation du canon du Nouveau Testament et ensuite nous entrerons dans le texte lui-même à partir du langage des paraboles telles qu'elles figurent dans l'évangile de Saint Luc. Voilà, Dieu vous bénisse et au mois prochain.